18h15 minutes à Niamey, bienvenue fidèles auditeurs et auditrices. C'est l'heure du forum du studio Kalangou qui traite des sujets humanitaires. Au Niger, l'importance des organisations non gouvernementales dans les zones de conflit, cas de la région de Tillabéri. C'est le thème du forum d'aujourd'hui. Il y a de nombreuses organisations non gouvernementales, aussi bien nationales qu'internationales, pour accompagner le Niger et contribuer à son développement. Donc, quelles sont les principales missions de ces ONG ou organismes qui interviennent dans la région de Tillabéri? Quelles sont les stratégies adoptées par ces ONG pour mener à bien leurs activités? Quelles sont les principales difficultés que rencontrent ces ONG dans l'exécution de leurs tâches? Ces ONG sont-elles efficaces, sachant que la situation a plutôt tendance à se détériorer, et comment les rendre plus efficaces? Ce sont là quelques questions auxquelles notre émission thématique tentera d'apporter des réponses. Pour ce faire, nous avons invité ce soir M. Ali Yero, qui représente le ministère de l'Action humanitaire. Bonjour, M. Ali.
Bonjour, madame.
Un représentant de la société civile, M. Diori, de Alternative Espace Citoyen. Et nous avons au téléphone Mme Nena Lafuente, directrice de l'ONG internationale danois pour les réfugiés. Bonjour, madame.
Oui, bonjour. Je vous reçois. Désolée, j'avais un petit souci technique.
D'accord. Tout d'abord, merci chers invités de vous joindre à nous sur ce plateau. Le Niger compte 164 organisations humanitaires, dont 11 initiées des Nations Unies, 143 ONG nationales et internationales et 10 sociétés de la Croix-Rouge. Pourtant, des situations de détresse humanitaire perdurent à l'intérieur du pays, notamment dans les zones rurales difficiles d'accès, malnutrition, insécurité alimentaire, épidémie, etc. En 2020, au Niger, la population dans le besoin humanitaire est estimée à 2,9 millions de personnes. Le plan de réponse humanitaire cible environ 1,8 million de personnes selon le cycle de programmes humanitaires publié en février 2020. Donc, nous allons d'abord commencer par M. Aliou du ministère des Affaires humanitaires. Le besoin humanitaire au Niger est estimé à 2,9 millions de personnes. Quels sont les critères de classement?
Bonjour madame, merci aussi de l'opportunité que le studio Kalangou nous donne pour venir discuter par rapport à ces questions humanitaires-là. Et donc, comme vous l'avez dit, au sens du plan de soutien 2020, effectivement, il y a 2,9 millions au plan national, hein, des personnes vulnérables. Et ce qu'il faut entendre par personne vulnérable, toujours au sens du plan de soutien, c'est l'ensemble des personnes qui sont en crise de sécurité alimentaire chronique. Et donc, dans ces personnes-là, il faut entendre aussi l'ensemble des réfugiés, l'ensemble des déplacés internes et les sinistrés des inondations de 2020 là. Donc, c'est cet ensemble-là qui donne ces chiffres-là que vous avez avancés au sens du plan de soutien.
D'accord. Madame Nena Lafuente, vous nous recevez?
Oui, je vous reçois.
Sur quoi se base ce choix de 1,8 million de populations nigériennes ciblées pour recevoir une assistance humanitaire en 2020?
Bon, pour élargir un peu sur la réponse du représentant du ministère d'Action humanitaire, chaque année, le gouvernement met en œuvre une analyse des besoins pour l'année à venir. Et dans cela, ils sont appuyés par le système des Nations Unies, notamment par OCHA, qui est le Bureau de coordination humanitaire, et l'ensemble des acteurs humanitaires dans le pays. Mm-hmm. Donc, il y a une structure qui s'appelle la structure des clusters et qui sont répartis par secteur. Donc, il y a un cluster pour la sécurité alimentaire, pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, pour la protection, pour la santé, etc. Donc, chacun de ces clusters rassemble les acteurs qui travaillent dans ces secteurs. Chaque cluster a un lead technique du gouvernement avec un appui technique de la part des Nations Unies. Et donc, chaque année, chacun de ces clusters au niveau terrain, au niveau régional, va faire leurs analyses sur les besoins qui sont en place et leurs prévisions pour les besoins qui vont venir. Tout ça, c'est rassemblé, c'est analysé et c'est validé au niveau national. Et voilà comment on peut produire des chiffres sur les besoins estimés. Bien sûr, la réalité peut différer de la prévision, mais cette prévision est très importante parce que ça cadre les priorités du gouvernement, ce qui nous aide, nous les humanitaires, à prioriser là où on doit travailler et les secteurs, les activités dans lesquelles nous devons travailler. Voilà.
Restez connectés, Madame Nena, nous allons revenir vers vous pour une prochaine question. Monsieur Diori, vous représentez la société civile autour de cette table. Que pensez-vous de ces statistiques?
Ce que nous pensons de ces statistiques reste d'abord des statistiques officielles avec lesquelles on travaille, qui constituent normalement la base de référence pour tous les acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, pour organiser leur intervention. Maintenant, sur ce que ça signifie en termes de leur fiabilité, l'État du Niger, je pense que lui-même sait qu'il n'a pas mis en place un dispositif suffisant pour produire les informations complètes et exactes, caractérisant l'essentiel des difficultés humanitaires rencontrées sur le terrain. Pourtant, c'est ce qui devait être, parce que l'action humanitaire, c'est quoi? Ça signifie qu'il faudrait organiser une assistance humanitaire à l'intention de toute personne qui se trouve dans l'incapacité de mettre en œuvre par elle-même ses droits garantis par le droit international des droits de l'homme. Et donc, ça peut concerner la question de logement, la question de sécurité alimentaire, de nutrition, de la santé, des abris et consorts. Et donc, lorsqu'il n'y a pas un dispositif d'information suffisant, eh bien, ça peut donner lieu à des réponses approximatives. Ça, c'est les premières limites. Je crois que même à l'échelle CEDEAO, ces discussions ont donné lieu en 2012, je crois, à l'adoption d'une charte de prévention et de gestion des crises alimentaires. Et l'un des pilier important de cette charte était de dire qu'il y a des difficultés à avoir des informations complètes. Il faut mettre en place un dispositif d'information qui soit fiable et qui soit consensuel et qui fixe la base des interventions. Aujourd'hui, l'État du Niger, quand on voit qu'est-ce qu'il a, il a d'abord un dispositif national de prévention et de gestion de crise alimentaire qui va jusqu'au niveau des départements. À l'échelle des communes, il n'y a presque rien du tout. Il y a simplement maintenant un effort depuis 2012 de dire que les OSV, qui sont les observatoires de suivi de vulnérabilité, et les SCAP-RU que les ONG ont pu mettre en place, on va les greffer au dispositif. Mais au stade actuel, il reste à l'échelle du département. Mais aussi rattaché à d'autres institutions. Et nous avons fait toujours l'analyse budgétaire pour voir quelles sont les ressources dont dispose cette institution pour fournir l'information complète. La réalité démontre que l'État du Niger n'apporte pas grand-chose. Quand vous regardez le budget du ministère de l'Action humanitaire, c'est 200 millions et quelques. 200 millions et quelques pour faire quoi? Lui-même a un dysfonctionnement avec le dispositif national de prévention et de gestion de crise alimentaire. Ça fait que les informations en tant que telles ne sont pas complètes. Et lorsque les informations ne sont pas complètes, la réponse devient maintenant elle-même approximative et on essaie de quand même pallier un peu ces insuffisances en ayant plusieurs niveaux d'information que le gouvernement essaie d'harmoniser. Le premier niveau, c'est qu'à l'issue, par exemple, de la campagne pour évaluer l'insécurité alimentaire, il y a un premier niveau sur les zones vulnérables à travers des degrés. Et par la suite, normalement, l'INS entre en scène pour faire l'enquête de vulnérabilité qui stabilise le nombre de personnes qui sont nécessairement en situation d'insécurité alimentaire. Il y a le cadre harmonisé qui entre en scène et puis pour stabiliser. L'information n'est qu'approximative pour le moment. Et la réponse aussi souffre des mêmes insuffisances sur la coordination maintenant.
Oui, mais M. Diori, que pensez-vous de ces 1,8 million là de la population nigérienne qui ont besoin d'assistance humanitaire?
La réalité,
Ils disent bien 1,8 million. Que pensez-vous de ces chiffres?
1,8 million de personnes ciblées et auxquelles on va accorder
l'assistance humanitaire en 2020.
Quand on voit les insuffisances d'avoir une information, mon impression à moi, parce que dès lors qu'il n'y a pas une étude qui détaille, c'est que les personnes en vérité, au sens du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont besoin d'assistance vont au-delà de ça. Il s'agit de ce que les acteurs ont pu cibler. Et même là, quand on évalue l'appui qu'on leur apporte, il s'agit de l'atténuation. On essaie d'atténuer les souffrances qu'éprouvent ces personnes, ce qui est bien, n'est-ce pas? Mais et non de les mettre à l'abri de la violation de la non-effectivité de leurs droits. Ce n'est pas cet angle-là qui est considéré. Et quand on regarde aussi les ressources, les acteurs humanitaires, parce que la vérité, c'est que l'État du Niger ne fait rien au plan humanitaire. Il ne fait pas grand-chose. Il compte essentiellement sur les agences des Nations Unies et les ONG internationales pour faire l'assistance humanitaire en tant que telle. D'accord. Et se contente de faire quoi? De lancer un appel. Oui, la situation est grave. On lance un appel à la communauté internationale. Il ne fournit pas des informations complètes. Il ne garantit pas la sécurité des interventions sur le terrain. Et il ne coordonne pas efficacement ces interventions. Ça donne l'impression d'un cafouage concret, observable, et cette recommandation revient régulièrement, mais n'est jamais totalement prise en charge. Aujourd'hui, quand vous mettez du côté les ONG internationales et les agences des Nations Unies qui interviennent, mais en fait, eh bien, l'ensemble de ces personnes aujourd'hui en difficulté risquent de se retrouver tout simplement en abandon, découlant de ces obligations, tout simplement.
Nous allons revenir vers tout ça, M. Diori. M. Ali, vous avez bien écouté ce que M. Diori vient de nous dire. Donc, quelle est votre réaction par rapport à ça?
Oui, bien sûr, j'ai bien écouté M. Diori. Sur un certain nombre de points qu'il a partagés, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec lui. Mm-hmm. Mais on ne peut pas dire à le stade actuel que l'État du Niger n'a rien fait. Rien que le fait de comprendre que ce pays-là qu'on appelle le Niger, à un moment donné, il a lieu de créer un ministère qui va en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, c'est une volonté politique affichée. D'accord, ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas en train de vouloir défendre l'État et penser que tout ce qui est fait est suffisant. Mais je pense que, comme Mme Directrice Pays l'a dit, effectivement, il y a un dispositif qui est là, les différents clusters, effectivement, je n'avais pas parlé. Ça existe, qui fait un travail remarquable pour donner des chiffres, pour donner des données qui sont fiables. Mais par rapport à l'information toujours à la base, il n'y a pas que seulement les OSV. Aujourd'hui, jusqu'au niveau des gros villages, bon, c'est vrai, c'est pas tout le pays qui est couvert. On a ce qu'aujourd'hui on appelle les escapris. Les escapris aussi, ils concourent d'une manière ou d'une autre aussi à faire un peu remonter les informations pour que les bonnes décisions soient prises.
Selon vous, il y a plus de la population nigérienne qui a besoin d'une assistance humanitaire?
En fait, c'est les personnes qui sont en besoin là, ce n'est pas seulement les communautés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de crises. Nous avons, par exemple, les déplacés internes. Nous avons aussi des réfugiés. Quand vous prenez, par exemple, la région de Tillabéri, nous avons des réfugiés maliens. Aujourd'hui, nous avons des réfugiés aussi burkinabés. Donc, c'est tout ce beau monde. Il y a aussi ceux qui sont concernés par les inondations dès 2020. Toutes ces populations-là, toutes ces personnes sont dans les besoins. Et donc, du coup, je ne suis pas très étonné quand j'entends ce chiffre de 1 800
000. D'accord. Ouais. Madame Nena, vous nous écoutez?
Oui, bien sûr.
Quelle est votre réaction par rapport à ce que viennent de dire la société civile et le ministère?
Bon, je pense qu'il faut reconnaître que le Niger, depuis beaucoup d'années maintenant, figure parmi les pays les plus pauvres au monde. Donc, chaque année, il y a une analyse qui est faite, qui regarde les besoins humanitaires et la qualité de vie, etc. Et le Niger figure toujours parmi les plus pauvres. Mais malgré cela, le Niger accueille et héberge des centaines de milliers de réfugiés des pays avoisinants. Et ils ont aussi des centaines de milliers de déplacés internes. Donc c'est un fardeau énormément lourd pour un gouvernement et pour une population. Parce qu'il ne faut pas, il faut vraiment reconnaître que les premiers humanitaires, c'est toujours les communautés d'accueil et les ménages d'accueil. Donc, quand il y a des déplacements, les communautés hébergent les gens qui sont déplacés, ils partagent le peu qu'ils ont, ils partagent avec les déplacés. Donc, il faut vraiment louer cette générosité. Mais il faut reconnaître que le Niger n'a tout simplement pas les moyens pour pouvoir ne serait-ce qu'identifier tous les besoins. Et c'est pour cela qu'il y a les agences de l'ONU et il y a tellement d'ONG internationales humanitaires qui sont présentes dans le Niger. Nous sommes là justement pour apporter un appui technique et un appui financier pour pouvoir identifier et répondre à ces besoins. Donc je pense que ça, il faut vraiment reconnaître la réalité de la situation. Mais je pense que c'est bien aussi de reconnaître les principes humanitaires, qu'on a fait allusion à ça. Donc les principes humanitaires, le tout premier principe, désolé, c'est le principe de l'humanité. Donc l'idée que les gens, les personnes vulnérables ont besoin d'assistance, ont le droit d'avoir cette assistance.
D'accord.
Donc c'est vraiment une réponse basée sur les besoins. Et derrière ça, les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance pour les humanitaires, ce sont des principes qui nous aident à apporter cette assistance d'une manière protégée.
D'accord, Madame Nela. Pouvez-vous nous parler de votre mission plus exactement dans la région de Tillaberi?
Oui, bien sûr. Et donc notre mission à Tillaberi, où nous sommes depuis 2014, consiste d'une assistance aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux communautés qui sont affectées par les déplacements. Et donc, on apporte une protection aux personnes vulnérables. Nous les aidons à sauvegarder leurs droits légaux et nous leur apportons les moyens d'accéder à un avenir meilleur. Donc ça, on le fait à travers notamment trois projets principaux.
Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions à Tillaberi?
À Tillaberi, je pense qu'il faut noter trois difficultés qui sont très présentes. Le premier, c'est l'insécurité aiguë. C'est une insécurité accroissante. Néanmoins, il faut noter que les humanitaires ne sont pas des cibles directes de des violences armées qui sévissent dans cette zone. Pour pouvoir faire les activités humanitaires, pour apporter une assistance aux personnes dans un besoin aigu, nous gérons les risques de sécurité et nous acceptons un certain niveau de risque pour pouvoir apporter un soutien à la population. Donc ça nous amène au deuxième facteur de limitation. Et il faut dire que la restriction du mouvement des humanitaires dans la région de Tillaberi par les autorités, ça nous réduit beaucoup le potentiel de pouvoir apporter cet appui.
D'accord.
Néanmoins, depuis l'année dernière, il y a eu une imposition par le gouvernement d'escorte armée sur les humanitaires dans toutes les zones frontalières de la région de Tillaberi. Accepter une escorte armée pour les humanitaires, c'est très, très problématique et ça revient un peu à ce que M. Dury a fait allusion. Ça touche sur le principe de neutralité et d'indépendance des humanitaires. Ça risque de donner l'impression aux groupes armés et aux communautés que les ONG sont partenaires avec les FTS et que donc ça nous amène à être des cibles directes des gangs qui veulent attaquer.
Oui, Madame Lena, nous allons revenir sur la stratégie que vous adoptez sur le terrain un peu plus tard.
Ok.
D'accord. Donc maintenant,
la troisième limitation, c'est bien sûr qu'il y a énormément de besoins, il n'y a pas énormément de financement.
Mm-hmm.
Donc malheureusement, les besoins humanitaires au Niger et spécifiquement à Tillaberi, il n'y a pas suffisamment de financement pour pouvoir toucher tous ces besoins.
Nous allons un peu illustrer cette situation en écoutant quelques témoignages de personnes de la région de Tillaberi.
Bon, moyennement satisfait. Essayer de toucher presque un peu partout dans les pays où vraiment il y a plus de nécessité d'aller. Ils doivent élargir vraiment leur champ d'action pour couvrir toute la population rurale.
Oui, je suis satisfait donc de leur prestation, du moment qu'ils aident donc l'État. Souvent dans les villages, tu vas voir donc des villages qui sont enclavés. ils font des actions comme les forages et autres. L'éducation aussi, ils viennent d'un des écoles qui sont reculées. La suggestion que je vais faire, c'est de faire en sorte que les ONG qui viennent pour faire leurs actions ici, qui ne peuvent pas partir de leur plateforme. Pour améliorer, donc, il faut que l'État doit contrôler donc, leurs actions. Donc, il faut qu'il y ait des civils.
Monsieur Ali, quelle réponse pouvez-vous apporter à toutes ces questions? Vous avez entendu, il y a des opinions un peu divergentes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces témoignages?
Mais ce que je voudrais réagir à chaud, c'est qu'il faut dire en termes d'assistance, c'est l'État en premier lieu. Et pour ça, pour revenir à ce qu'a dit mon frère Diori, l'État en a fait en adoptant une loi qui est relative à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes, par exemple. Ça, c'est un outil d'aide. Maintenant, par rapport à ce que font les ONG, tout comme eux l'ont salué, ça ne peut qu'être salué. Alors, mais peut-être ce que nous déplorons à ce niveau, peut-être qu'on va en revenir, mais certaines ONG, on observe qu'ils font cavalier seul. Ce n'est pas toujours que les représentants légaux sont impliqués. Et par exemple, au niveau du ministère de l'action humanitaire, on dit que nous assurons le lead de tout ce qui est action humanitaire. Nous occupons de la coordination. Mais j'avoue, ce matin, avant de venir, j'ai discuté avec notre coordinateur régional, entre autres pour savoir quelles sont les difficultés auxquelles ils font face. Et il me l'a notifié que bon, souvent, certains ONG, ils font de l'assistance sans pour autant qu'ils soient impliqués. Et donc, du coup, moi, je n'étais pas sur le terrain. Mon appréciation ne peut pas dépasser ce niveau-là, quoi, malheureusement, oui.
D'accord. Voilà. Monsieur Diori.
Monsieur, je suis de très près ce sujet. Le premier, c'est que quand on regarde la coordination, c'est qu'ils n'arrivent même pas à mettre un dispositif à son niveau, objectivement capable d'assurer une coordination efficace. Simplement parce que d'un point de vue institutionnel, quand vous regardez l'État du Niger, entre le ministère de l'Action humanitaire, qui est un ministère à part de par son nom, et le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, qui lui-même, comme vous voyez, son nom a beaucoup changé entre 2012 et maintenant. Avant, il y avait une réforme à la hâte en 2012, où à l'intervalle d'une semaine, 7 arrêtés du Premier ministre étaient pris. On l'a nommé ministre, dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. Il y a une confusion sur quelles sont ses attributions concrètement et les attributions du ministère nouvellement créé. Après, on l'a ramené dispositif de gestion des crises alimentaires, rattaché au cabinet du Premier ministre avec plusieurs outils. Au point où, d'un point de vue matériel d'attribution, eh bien, le ministère en fait n'existe que de nom. Ça, c'est au plan institutionnel. Quand vous regardez le deuxième niveau des ressources à mettre en œuvre, pour disposer des informations suffisantes, il n'y a pas grand-chose. Ce ministère-là dont on dit, son budget annuel, y compris dans la loi de finances 2021, ne vaut pas 300 millions de francs CFA. Je ne parle pas des milliards. Pour parler de la question humanitaire au Niger, vous regardez rien que le volet du cluster nutrition. Vous n'avez au bas mot 40 milliards chaque année sur la question de nutrition au Niger. L'État du Niger, lui, le ministère tout entier, n'a pas 300 millions de francs CFA pour fonctionner et pour assurer la cohésion, pour faire le reste. Vous regardez au niveau du dispositif. À l'exception de cette année où vous avez une enveloppe de 30 milliards pour les filets sociaux qui ne financent pas, qui vient d'ailleurs, qui est inscrit dans le budget, mais vous n'avez pratiquement... L'État du Niger n'assure même pas le fonctionnement de ces institutions, à plus forte raison, leur offrir les moyens de prester pour délivrer les services aux citoyens. Or, le premier destinataire des obligations internationales en matière des droits de ces personnes-là, des droits de l'homme, je ne dis pas des citoyens, parce que la protection devait être apportée à toute personne vivant sous sa juridiction, donc présente sur le territoire du Niger, que ce soit une personne victime de catastrophes naturelles, une personne réfugiée qui, en raison des difficultés dans son pays d'origine, a dû quitter pour chercher une protection ailleurs, déplacée interne et autres. Toutes ces personnes en difficulté d'exercer par elles-mêmes leurs droits, c'est l'État du Niger qui s'est porté garant à l'international pour en assurer l'effectivité. Et quitte à lui de mettre en place un dispositif organisationnel interne pour en assurer l'effectivité, mais il ne le fait pas. Et donc, quand on regarde le budget de l'État du Niger cette année, c'est 2 644 milliards de nos francs. On dit, bon, pour ça, on met quelques 200 millions. Et quand on regarde la question de nutrition, à un moment, il mettait 500 millions au niveau de la direction nutrition. Après, il l'a même supprimé. Et donc, lui, il ne met pas des ressources. C'est simplement par moment, on organise des conférences pour dire qu'on appelle la communauté internationale à la recourse. ONG et agences des Nations Unies entrent en scène. Et le fait qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts est pour quelque chose dans son inaptitude objective à coordonner les interventions sur le terrain. Et des besoins réels, globalement, et aussi de la réponse. De telle sorte que eux-mêmes, leur vocabulaire, c'est quoi? C'est l'atténuation. Même le plan de soutien, quand on dit son objectif, c'est d'atténuer. Or, l'obligation internationale de l'État du Niger, c'est de mettre à l'abri de la faim, à la santé, à l'éducation, au logement, à l'habillement et au consort. Et donc, ce calcul est faux. C'est pour ça que le chiffre, déjà qu'on donne de 1 million, 2 millions, il est éloigné de la réalité concrète. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que lors de ciblage, quand on vient à l'épreuve de déterminer les personnes concrètement auxquelles on doit donner l'assistance, eh bien, on ne sait même pas qui choisir parce que la question de la pauvreté, de la misère des gens est au-delà de des chiffres qu'on avance de quelques 2 millions. C'est plusieurs millions de personnes. Et non seulement il ne le fait pas, les acteurs humanitaires qui entrent en scène avec un minimum aussi d'obligation de respect des normes, la période de conflit spécifiquement, pose un autre problème. On dit que bon, il y a deux parties en belligérance. Les acteurs humanitaires, normalement, sont censés être indépendants vis-à-vis et de l'État du Niger et des autres, des parties en conflit. Et donc, ils doivent garder leur indépendance. L'État du Niger dit non, moi d'abord, je vous oblige à être avec moi pour aller
monsieur,
faire ce que
monsieur
vous êtes
Djory,
à faire,
vois,
et vous me payez. On les loue. On loue les services d'un État qui doit garantir la sécurité sur l'ensemble de son
territoire. Je vois qu'il y a une envie pressante de monsieur Ali.
Et donc, il y a beaucoup à dire, je le laisse réagir.
Donc, monsieur Ali, vous avez la parole.
J'y fais que mon frère Djory, au niveau de l'espace, au niveau de l'alternative, ils sont beaucoup plus avancés dans ces questions, parce qu'ils font même notre budget parallèle aussi de l'État. Ils sont... ce que je voulais rappeler à mon frère Djory, c'est que le ministère de l'Action humanitaire en tant que tel, c'est encore un jeune ministère. Il n'a été créé qu'en 2016. D'accord. Je sais qu'il y a des difficultés. Ce que vous dites là, il faut être honnête, on l'observe. Mais le processus est enclenché, probablement, si peu, on va descendre jusqu'au niveau des communes, jusqu'au niveau des gros villages, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah.
D'accord. Madame Nena, vous êtes là?
Oui, bien sûr.
D'accord. Avez-vous une intervention par rapport à ça?
Encore une fois, j'essaie d'amener un peu une petite perspective. Le ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, qui est le ministère tutelle des ONG nationales et internationales, eux, ils ont identifié plus que 2000 ONG qui opèrent au Niger. Donc, certes, ce ne sont pas toutes des ONG humanitaires, mais c'est clair qu'il y a beaucoup plus que juste 143 ONG nationales et internationales qui travaillent dans l'humanitaire, comme vous l'aviez identifié tout au début. Et donc, le défi de coordination, quand on a autant d'organisations, c'est énorme. Et ces organisations, il y a toute une gamme d'organisations. Ça va des toutes petites organisations caritatives nigériennes qui apportent un appui de charité, qui est peut-être juste dans un département, jusqu'aux ONG internationales énormes qui travaillent sur 3, 4, 5 régions du pays et qui ont des centaines d'employés au Niger. Donc, il y a toute une gamme d'organisations. La coordination de ces organisations, c'est quelque chose qui est complexe, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde qui arrive à le faire d'une manière parfaite. Parce que chaque organisation a un mandat un peu différent, etc. Donc, juste pouvoir coordonner et communiquer avec toutes ces organisations, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut reconnaître cela et appuyer le gouvernement dans les mesures qu'ils ont mis en place pour cette coordination. Donc, notamment, le besoin d'avoir un protocole d'accord type en place, le besoin d'avoir des protocoles de mise en exécution pour chaque projet qui est mis en œuvre, qui est signé au niveau nécessaire, donc au niveau départemental, régional, national, selon la couverture géographique du projet. Ce sont des mesures qui sont en place pour aider le gouvernement à identifier qui fait quoi où sur le territoire nigérien. Mais c'est clair que c'est pas toujours compris, c'est pas toujours suivi. Et donc, ça rend très difficile le travail de coordination.
Pour répondre efficacement à ces problèmes que vous avez eu à énumérer précédemment et à leurs répercussions, quelles sont les stratégies que vous adoptez pour faire avancer vos activités dans la région de Tillabéri?
Pour nous, on met beaucoup sur la stratégie d'acceptation. Donc l'idée d'acceptation, c'est l'idée que l'ONG est acceptée et accueillie par la communauté parce qu'ils voient que nous apportons de la valeur. Et donc cette acceptation nous aide à nous protéger, notamment à travers des informations qui pourraient être partagées avec nous sur les zones qui sont peut-être sensibles, les zones qui sont peut-être dangereuses, les jours qui sont peut-être plus dangereux que les autres. Et ça nous aide aussi parce que des fois, les communautés peuvent intervenir pour faire un plaidoyer. Il y a des zones à Tillabéri où l'insécurité est beaucoup plus liée à des activités criminelles qu'à des activités de groupes djihadistes. Donc, c'est clair que les groupes djihadistes, il y a pas moyen de discuter, ni encore moins de négocier avec eux. Mais dans des zones où il y a des activités violentes, mais liées à la criminalité, souvent les communautés peuvent intercéder avec ces groupes pour demander qu'ils laissent passer les ONG pour pouvoir apporter un appui aux communautés. Donc cette idée d'acceptation et d'acceptance, c'est un principe sur lequel les humanitaires partout au monde se basent. Et donc, pour ça, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place, notamment avoir les ressources appropriées. Donc, pour les ressources humaines, on essaye au maximum de recruter localement, parce qu'on sait qu'un assistant de projet qui vient de la zone est beaucoup plus accepté et a beaucoup plus la connaissance de la zone pour pouvoir faire le travail que quelqu'un qui vient de l'extérieur de la zone. On essaye le maximum possible de faire nos achats localement pour appuyer l'économie locale et pour avoir l'acceptance des fournisseurs et des leaders économiques. Nous essayons de mettre en place des programmes qui sont innovants pour refléter la réalité sur le terrain. Donc, par exemple, ça fait depuis 2014, nous avons fait des activités à Banquier Larré, qui sont des activités de réduction de violences armées et pour améliorer la cohésion sociale. Donc, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'ateliers. Depuis l'année dernière, on n'a plus d'accès à ce département. Et donc, au lieu d'aller à ce département pour faire les formations, on amène les participants de la région, on les amène à Terra ou à Tillabériville pour faire les formations avec eux là-bas. On peut pas faire voyager tout le monde. Donc pour nous, ce travail à distance, on essaye de le faire au minimum parce que c'est que en étant présent dans la zone qu'on peut vraiment bien comprendre les enjeux, bien comprendre les besoins et vraiment être ancré dans la communauté. Mais là où il n'y a aucun choix, c'est une des options qu'on peut mettre en place.
Donc, l'impact que ces situations ont sur vos activités sur le terrain est assez, complexe?
Oui. Et ça dépend des zones et ça dépend aussi des projets. Donc, par exemple, pour notre projet que je viens de citer sur sur la réduction de violences armées, là, c'est que des activités, ce qu'on appelle des activités soft, des activités molles. Donc, des activités dures, c'est par exemple mettre en place un forage d'eau, c'est faire une distribution de kits, abris, etc. Des activités molles, c'est plutôt des formations, c'est des activités de renforcement de capacités, c'est des activités de dialogue communautaire. Et donc, ces activités-là, on peut les amener on peut les déplacer et les faire dans des endroits qui sont dans la zone qui est permise aux ONG. Mais les activités dures, les activités physiques, là, c'est beaucoup plus limité. La plupart des déplacements auxquels normalement nous devrions répondre se font justement dans les zones avec les problèmes les plus aigus d'insécurité. Et dans exactement les zones où on a le plus besoin de pouvoir apporter une assistance, ce sont ces zones-là où nous avons des restrictions sur nos mouvements.
Monsieur Ali, la capacité opérationnelle des acteurs humanitaires du Niger continue de s'accroître, ainsi que la complexité et la persistance des problèmes humanitaires. Donc, quelles sont les leçons que vous tirez de vos expériences respectives avec les ONG humanitaires et comment vous vous adaptez à certaines situations difficiles?
Question complexe. Des expériences que nous avons avec les différentes ONG humanitaires, ce qu'on retient, c'est beaucoup plus les grosses ONG des Nations Unies qui assistent, qui appuient le ministère dans l'accomplissement de sa mission. Donc, nous, on reste juste au niveau national. Nous ne descendons pas jusqu'au niveau vos terrains. Mais ce qu'il faut noter, c'est vraiment que ces grosses ONG, ils font beaucoup. Et à chaque fois que l'État fait l'appel à travers le ministère de l'Action humanitaire, les gens, ils les répondent promptement. Et voilà.
D'accord. Et Monsieur Diori, après tout ce qu'on vient de se dire, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État, des populations civiles et même des forces armées en vue de plus d'efficacité de vos interventions?
Ce qu'on attend de l'État, c'est d'abord d'apporter la preuve concrète dans son fonctionnement quotidien, qu'il a conscience que c'est d'abord lui le porteur d'obligations primaires en matière de mise en œuvre des droits des gens qui sont sous sa juridiction. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La pratique, quand on discute avec les responsables politiques à un plus haut niveau, y compris les techniciens, on a tendance à sentir chez eux que l'action humanitaire est une affaire de l'ONG, des agences des Nations Unies, que l'État du Niger n'est pas en premier lieu, en première loge. Et quand on regarde les programmes qu'il met en place, cela encore se confirme. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une tendance intenable dans la durée à banaliser les investissements liés au développement et à laisser l'enveloppe liée à l'action humanitaire prendre au fur et à mesure de l'envol. Aujourd'hui, quand vous regardez l'enveloppe humanitaire au Niger, c'est pas moins de 200 milliards 300 à plus chaque année. Et ça, or, quand vous regardez qu'est-ce qui est concrètement fait pour des investissements structurants, pour la prise en charge, ce que la madame a appelé des actions dures qui consistent à renforcer les capacités des citoyens à se relever, à se conforter, à pouvoir et aussi se prendre en charge et réduire finalement dans la durée l'assistanat. Et on voit qu'on risque d'assister à un cercle vicieux du fait justement de cette faible prise de conscience par l'État lui-même. Et nous avons toujours dit que l'action humanitaire, l'action de protection des droits humains de façon générale, est un outil privilégié et qui doit être compris comme tel par l'État du Niger et la communauté internationale dans son ensemble. Outil, je dis, plus efficace en matière de lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme et toute forme de banditisme auquel on assiste maintenant. Parce que la plupart des jeunes gens qui se prêtent à cet exercice, au fond, cela n'est pas étranger à la précarité dans laquelle ils vivent. Et donc, c'est important qu'on ait une vision plus globale, plus systémique, pour pouvoir organiser une réponse qui permet de protéger la dignité humaine et de s'inscrire dans une logique de sortir au fur et à mesure de l'assistanat jusqu'à une certaine échelle. Et cela relève du possible. Et ça ne viendrait que lorsque l'État se réorganise. Et l'autre chose, c'est que ça dépend encore toujours de lui qu'il y ait un mécanisme de coordination des interventions pour les rendre encore plus efficaces avec le peu de ressources qu'on a maintenant. Parce que ce capharnaüm actionnel qui fait que tout le monde fait un peu ce que bon lui semble dans la limite de sa bonne volonté, parce qu'il n'y a pas un mécanisme suffisamment solide de coordination, ça tire vers le bas. Aujourd'hui, quand on discute avec les gens, l'un des points faibles, l'un des points de friction des actions, de l'action humanitaire au Niger, c'est la qualité du ciblage. La qualité du ciblage en termes de ciblage des zones, parce qu'il n'y a pas un dispositif d'information, une bonne connaissance de la réalité sur le terrain. Ciblage des zones, mais ciblage aussi des personnes devant prioritairement bénéficier de l'assistance humanitaire. N'est-ce pas? Et toutes les fois qu'on discute avec les gens, cela revient. Et dans la communauté humanitaire, c'est aussi un sujet qui fait discussion. De telle sorte que vous pouvez trouver l'un qui vient avec tel format, telle norme de réponse et un autre avec tel autre. Au point où le bénéficiaire, lui, lambda, qui n'est pas dans ce commerce humanitaire-là, ne comprend pas, n'arrive pas à lire ce qu'il y a derrière. L'autre chose, c'est aussi du rôle de l'État, de réduire autant que faire se peut la corruption et les pratiques assimilées en lien avec l'action humanitaire. Parce que quand on voit toute la chaîne des décideurs qu'il y a, le fait que le ciblage n'est pas bon, on voit toutes les interférences qu'il y a d'une certaine aristocratie locale, à commencer par les chefs du village, les maires, les techniciens sur le terrain, les hommes politiques. Il y a même la politisation de l'action humanitaire dans un certain degré.
Monsieur Diori,
et la protection,
que vous
et
avez
la protection aussi
beaucoup
des actes
de choses à dire, mais là, nous sommes déjà au terme de l'heure qui a été convenue pour ce forum. Madame Léna ?
Oui, je suis là.
Merci beaucoup pour votre patience.
Est-ce que je peux juste faire un dernier point, s'il vous plaît ?
Oui, oui, allez-y.
Merci.
Donc, je mais brièvement, s'il vous plaît.
Oui, j'essaie.
Oui, oui.
Je réponds entièrement à ce que M. Diori a dit sur le besoin d'une réponse holistique pour protéger la dignité humaine. J'entends souvent, en particulier de la part des forces de sécurité, des défenses de sécurité, que sans la sécurité, il n'y aura jamais le développement. Mais il ne faut jamais oublier que sans le développement, il n'y aura jamais non plus la sécurité. Les deux doivent venir main dans la main. Et donc, je voudrais juste souligner que le 20 octobre, lors d'une table ronde sur le Sahel central qui a été organisée par les gouvernements danois, allemand, ECO et OCHA, le gouvernement nigérien a annoncé plusieurs engagements. Et deux de ces engagements, je voudrais souligner, parce que ce sont des engagements qui, vraiment, nous souhaitons travailler avec le gouvernement nigérien pour les mettre en place. Donc, ils se sont engagés d'abord à renforcer les mécanismes de dialogue entre le gouvernement et les partenaires tout en trouvant des alternatives efficaces, mieux partagées, consensuelles et flexibles selon l'évolution de la situation sécuritaire de la zone. Et deuxièmement, de développer une stratégie commune d'accès afin de créer des conditions d'accès des partenaires humanitaires et d'accès des populations aux services sociaux de base et aux moyens d'existence, tout en impliquant les autorités régionales, dont les gouverneurs, et locales, donc les préfets, les maires et les chefferies traditionnelles. Et donc ces deux engagements sur l'accès humanitaire, pour nous, ce sont des engagements clés pour nous permettre de mieux accéder aux populations dans le besoin. En particulier, cette question de vraiment donner le pouvoir aux préfets de prendre des décisions au jour le jour. Parce que pour une maîtrise détaillée sur à la fois les conditions sécuritaires et les besoins humanitaires qui sont présents sur leur zone, les préfets sont vraiment les mieux placés pour pouvoir juger au jour le jour quelle est la situation. Donc merci beaucoup pour l'opportunité de participer à cette discussion assez passionnante.
Merci beaucoup Madame Nina Lafonte pour votre participation. Merci à M. Diori qui a représenté la société civile et merci aussi à M. Ali du ministère de l'Action humanitaire. Nous sommes au terme de ce forum qui a traité sur le thème au Niger l'importance des organisations non gouvernementales dans les zones de conflit, cas de la région de Tillabéri. À la présentation, vous aviez Rafika Taher.